Chapitre 7. Vendredi 14 avril, 10h06. Bien que la matinée soit grise et froide et que la pluie menace, Holmes avait loué un landau ouvert pour se rendre à l'exposition. James se munit d'un parapluie. Le détective portait la grande écharpe rouge qu'il revêtait quand la température passait sous les 20 degrés. Le cocher, perché sur son siège, était emmitouflé de laine. Holmes se montra aussi taciturne ce jour-là qu'il avait été volubile pendant leur excursion en bateau la veille. Quand James lui demanda s'il avait déjà emprunté ce chemin pour aller à la Ville Blanche, Holmes répondit que Harrison, le maire de Chicago, l'y avait conduit le mercredi.
« Comment est-il ?» demanda James.
« Bavard. » Après un instant de silence seulement perturbé par le bruit des sabots des chevaux et des véhicules qu'il croisait, Holmes ajouta
« Et étonnamment sympathique.
Corrompu sans aucun doute, mais très apprécié de ses concitoyens, je pense. »
Quel est l'objet de notre sortie d'aujourd'hui?
Nous devons déterminer l'endroit où se dissimulera le canadair pour perpétrer son crime, dit Holmes presque dans un murmure.
Je ne connais rien au fonctionnement mental des assassins, rétorqua James.
Certes, mais j'ai pensé que vous aimeriez voir les lieux de l'exposition avant de quitter Chicago demain.
Nous repartons demain?
Vous? Oui. Répondit Holmes, et il rejeta son écharpe par-dessus son épaule. Le trajet vers le sud de la ville parut interminable, même s'il prit moins d'une demi-heure.
« C'est par là que passera le président Cleveland ?»
demanda James à voix basse. Holmes fit oui de la tête. James regarda tous les immeubles, les toits et les ruelles.
« Un assassin pourrait se cacher n'importe où. »
La police de Chicago placera un millier d'agents le long du chemin afin que personne ne puisse se précipiter sur le véhicule, expliqua Holmes sotto voce. Il y aura des centaines d'autres policiers derrière le convoi, puisque d'après le maire Harrison, 200 000 personnes environ suivront les voitures sur au moins une partie du trajet. Holmes se pencha plus près de James. Mais peu importe, Lucas Nadler ne s'approchera pas armé d'un pistolet. Il utilisera un fusil. Probablement à très longue distance. James en eut froid dans le dos.
Les deux derniers présidents assassinés ont reçu une balle de pistolet tirée de très près.
Holmes secoua la tête. Lucas Nadler ne procédera pas de cette façon. C'est un tueur professionnel, ne l'oubliez pas. Il a abattu 11 leaders ou dignitaires étrangers au cours des deux dernières années.
Ce n'est pas possible.
Holmes sortit un petit morceau de papier de la poche de sa veste, montrant une liste de noms et de pays.
« Mon Dieu !»
marmonna James. Sébastien de Moran et lui ont manqué de peu d'assassiner Sa Majesté la Reine Victoria en 1888. Et Lucas n'était encore qu'un adolescent à l'époque. Il ne travaille plus avec Moran. Lui et lui seul est responsable des assassinats figurant sur cette liste. James était sans voix. Ils approchèrent du site de l'exposition par le nord-ouest. Deux membres de la garde colombienne, flamboyant dans leurs uniformes de toile bleue, examinèrent le laissez-passer spécial que Holmes leur montra, puis deux autres gardes ouvrirent les portes. Devant eux, le Midway Plaisance s'étendait sur presque 2 kilomètres. James vit une pancarte indiquant qu'il se trouvait sur l'avenue des Nations. Lorsque l'écrivain avait entendu parler du Midway Plaisance, il avait imaginé une fête foraine ou un carnaval tel qu'il les connaissait, quoique en plus grand. Mais les concessions et attractions qu'il découvrait avaient la taille de véritables villes. Ils passèrent devant une cabane en rondin qui lui parut modeste en comparaison.
« C'est la cabane du redoutable Sitting Bull, » dit Holmes. « Malheureusement, M. Burnham, le directeur de l'exposition, n'a pas pu avoir Sitting Bull puisqu'il a été tué par l'armée il y a 3 ans. Elle est donc occupée par le chef Rain in the Face quand il ne participe pas au Wild West Show, le spectacle de Buffalo Bill, à l'extérieur du site de l'exposition. Rain in the Face prétend avoir tué le général Custer et ses compatriotes Sioux ne le contestent pas. James regarda des hommes vêtus d'épaisses robes en peau et en fourrure. Il devait avoir horriblement chaud malgré la fraîcheur de la journée.
Le village Lapon, expliqua Holmes. Je n'aimerais pas être à leur place au mois de juillet. Des hommes à la peau mate, presque entièrement nus à l'exception de quelques feuilles autour de la taille, passèrent à proximité.
Des cannibales, précisa Holmes, du Dahomey.
Quel profit tire l'exposition de la présence de cannibales?
C'est une exposition universelle. Daniel Burnham tente d'apporter le monde à 1 million d'Américains qui n'auraient jamais les moyens d'aller le découvrir.
Quel genre d'homme est ce Burnham ?
Séduisant, autoritaire, très occupé et déterminé. Très, très déterminé.
Je suppose qu'il faut l'être pour bâtir un ensemble comme celui-là en si peu de temps.
Mais il paraît loin d'être achevé.
Il ne le sera même pas le 1er mai, mais du moins en aura-t-il l'air.
Burnham fait travailler ses équipes littéralement jour et nuit. Un homme tenant en laisse une autruche traversa devant leur landau. « Californie », précisa Holmes, ce qui n'éclaira en rien James.
« Grand Dieu !»
s'exclama l'écrivain quand ils passèrent devant ce qui ressemblait à un village autrichien entier, avec ses bâtiments en pierre, ses tours et ses auberges.
« Un bon endroit pour prendre une chope de bière et une schnitzel quand la foire sera ouverte », dit Holmes.
James remarqua un grand espace vide devant lequel une pancarte annonçait en majuscule « Parc de ballons captifs ».
« Qu'est-ce qui rend un ballon captif ?»
demanda-t-il.
« Des cordes. »
Alors qu'ils atteignaient le centre du Midway, James prit la mesure de la taille qu'allait avoir la roue de M. Ferris. Seule la moitié de l'édifice de 80 mètres de haut était terminée, mais son axe semblait aussi énorme qu'un séquoia géant en acier posé à l'horizontale. Une palissade en bois de 2 mètres protégeait le chantier. Soudain, l'un des ouvriers dans les hauteurs de la structure cria quelque chose, puis dégringola d'un niveau à l'autre, telle une créature arboricole, et prit appui sur le haut de la palissade pour sauter et atterrir pile à côté du landau à l'arrêt. James eut la surprise de reconnaître Wiggins II, le jeune Moth, vêtu du même bleu de travail que les autres ouvriers s'affairant à la construction de la roue de Ferris. Le garçon avait dormi sur un lit de camp dans la chambre de Holmes lors de leur première nuit à Chicago, et James ne l'avait pas revu ni pensé à lui depuis.
« Bien le bonjour à vous, monsieur !»
les salua Wiggins.
« Hello, Moth !» dit Holmes. « J'ai l'impression que tu as trouvé un emploi. »
Le garçon eut un large sourire.
« Pour sûr, monsieur Holmes, et avec un vrai salaire d'ouvrier. Le contremaître, il dit, ce Moth-là, c'est rien qu'un avorton. Mais monsieur Ferris, qui est venu superviser le contremaître, lui a dit « Je l'ai vu grimper, Bane. Il est plus singe qu'avorton et plus fort que la plupart de vos gars. » « Donnez-lui du boulot sur l'échafaudage et la construction métallique. On a besoin de grimpeurs comme lui, qu'il a dit. Et c'est comme ça que j'ai été engagé. Oh, et on m'appelle plus Moth, mais Monk, diminutif de Monkey. »«
Ça ne vous gêne pas ?»
demanda James, se penchant en avant en s'appuyant sur son parapluie pour voir le jeune homme à la gauche de Holmes.
« Au contraire, monsieur James !»
répondit-il en souriant.
« Les durs du rue de Londres m'appelaient Moth, le Razmoth. Ça me plaisait pas tant que ça. Même si je reconnais que j'aimais bien la façon de parler de Moth. » Mais Monk parlera peut-être de la même façon.
Comment parliez-vous quand vous étiez Moth ?
Le sourire édenté réapparut.
Bon, alors mon contremaître, Monsieur Higgins, nous demande au déjeuner comment je peux séduire cette dame italienne qui vit dans mon immeuble et qui fait comme si j'existais pas. Et personne dit rien parce que Monsieur Higgins, il a un caractère de cochon. Mais moi je lui dis, mon maître accompli, Monsieur Higgins, vous devez fredonner un air de gigue sur le bout de votre langue. Accompagnez-le de vos pas en dansant une canarie. Animez-le en roulant vos prunelles, soupirez une note, chantez-en une autre, quelquefois une roulade du gosier, comme si vous vouliez avaler l'amour en le chantant, quelquefois du nez, comme si vous preniez une prise d'amour en flairant l'amour, avec votre chapeau en forme d'auvent sur la boutique de vos yeux, vos bras en croix sur votre gilet, comme un lapin à la broche, ou vos mains dans votre poche, comme un personnage de l'ancienne peinture, en prenant garde. Ça, c'est important, monsieur, de rester trop longtemps sur un même ton, d'abord un fragment et puis un autre. Voilà les qualités, voilà les gentillesses qui séduisent les jolies filles, lesquelles seraient, je l'admets, encore séduites sans tout cela, et qui rendent les gens de considération, voyez-vous, gens de considération, ceux qui s'y sont adonnés. Et voilà comment j'ai conclu ma petite observation.
Holmes rejeta la tête en arrière et éclata de ce rire qui ressemblait à un aboiement. James ne put que regarder le gamin bouche bée.
« Tu iras loin, Moth.
Je veux dire Monk. » affirma Holmes et il lui tendit un billet de 10 dollars.
« Merci, monsieur !»
répondit le jeune homme en glissant le billet dans sa casquette.
« Et j'espère que vous m'en voulez pas de pas repartir en Angleterre, mais de rester chercher fortune ici en devenant américain ?»«
Pas du tout. C'était un plaisir de travailler avec toi quand tu étais Wiggins II de Baker Street, mais l'heure est venue pour toi de montrer au monde ta vraie valeur. »«
Monsieur Ferris dit que ce sera sûrement pas la dernière roue qu'il construira, même si les autres seront sûrement plus petites. » Si je réussis bien sur les poutrelles d'acier ici, Je voyagerai peut-être avec ces ouvriers dans d'autres états ou même d'autres pays.
Je te le souhaite, Monk, dit Holmes. Il demanda au cocher de repartir, puis se retourna pour crier au garçon. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, Wiggins, tu sais où me trouver. Le garçon sourit et hocha la tête.
J'y manquerai pas. Et que Dieu vous garde, monsieur Holmes.
Lorsqu'ils eurent repris leur route et furent passés devant ce que Holmes décrivait comme le village algérien, où des dames les observèrent dessous leur voile, puis devant une rue qui, une semaine plus tard, serait une rue très animée du Caire, James dit
« La tirade de peine d'amour perdue ?
Où diable Wiggins a-t-il pu l'apprendre ?»«
J'emmène mes garçons les plus prometteurs au théâtre, » répondit Holmes. « J'estime que s'ils étaient nés dans des milieux plus favorisés, nombre d'entre eux auraient fini députés. » Quoique, à la vérité, la plupart sont trop intelligents et honnêtes pour le Parlement.
James y réfléchit, alors qu'il passait devant un gigantesque zoo d'où montaient de puissantes odeurs animales. Il entendit un lion rugir et, peut-être, un hippopotame faire des bruits d'hippopotame. Il ne leva pas les yeux. Au loin, à l'ouest, une clameur joyeuse montait de là où se donnait le spectacle de Buffalo Bill, qui attirait des foules depuis qu'il avait ouvert quelques semaines plus tôt. Leur landau tourna à droite et un ensemble étourdissant d'immenses bâtiments apparut, traversés de canaux, de bassins, de ponts et d'étangs. Le plus grand lac se trouvait à leur gauche. James distingua l'île boisée au centre et l'alignement des grands monuments à leur droite lui évoqua les falaises de Douvres.
« Nous sommes officiellement dans la ville blanche », annonça Holmes. « Nous venons de passer devant le palais de la femme. »
James fut incapable de parler. Il était surpris de se découvrir si impressionné par la beauté, la taille et l'agencement de la ville blanche qu'il avait imaginé comme un simple champ de foire. Il avait l'impression d'avoir fait un saut dans l'avenir, un avenir propre, blanc, sûr et sain.
Il y a un peu plus de 1 kilomètre jusqu'au palais de l'administration, devant lequel le président Cleveland fera son discours,
dit Holmes tout bas, afin de ne pas être entendu du cocher.
Un assassin pourrait se poster n'importe où d'ici jusque là-bas.
S'appuyant sur son parapluie, James se tourna vers l'homme assis à côté de lui. Les yeux de Holmes brillaient d'excitation.
« Et j'ai besoin de votre aide, James, pour déterminer où le canadlaire projette de perpétrer son crime le 1er mai. »